cas, cela donnera lieu à un vote jeudi en session plénière. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Le rugby et des Springboks sud-africains bondissant face au Tonga, ils se rapprochent d'une qualification.
Radio G, 101.5 FM.
Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it one, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G qui adorait les films d'aventure extraordinaires au 19e siècle avec un engin volant et son capitaine avide de pacifisme à tout prix, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, Charles Bronson et John Strock, un agent du ministère de l'Intérieur américain qui fait appel à la Weldon Balloon Society pour tenter de résoudre une énigme qui s'est déroulée aux abords de la ville de Morganstown, à proximité du mont Airy. S'ensuit une épopée en ballon qui va se heurter à la volonté d'un certain Robur, anarchiste apatride pacifiste, incarné par Vincent Price. Les quatre pensionnaires du ballon se retrouvent emprisonnés à bord de l'Albatros et la tension entre eux va grandissante alors qu'il leur faut agir. Le maître du monde de William Whitney, c'est maintenant.
A flying ship!
Heavier than an airship, impossible!
On the contrary, not only possible, but actual. You are being carried through space by a ship of several tons weight at a speed of some 150 miles per hour.
150?
And why exactly are we being carried through space, Mr. Rover? The name is Rover, sir. Welcome aboard the Albatross, good people.
Une voix tonitruante qui déclame des versets de la Bible depuis l'intérieur du cratère du mont Airy. Tout ça fait craindre un cataclysme aux habitants de Morganstown en Pennsylvanie. Et l'affaire remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur qui missionne John Strock pour la démêler. Celui-ci s'adresse alors à Monsieur Prudent, éminent dirigeant de la Weldon Balloon Society, afin de lui emprunter un dirigeable et d'aller observer le cratère à la lunette. Prudent, sa fille Dorothy, Philip, son fiancé, et John Strock partent donc à l'aventure. Mais à peine arrivés sur les lieux, ils sont bombardés par des missiles. Le ballon s'écrase. Alors qu'ils sont inconscients, les quatre passagers se retrouvent prisonniers d'un aéronef autant incroyable qu'inconnu, mu par l'électricité, un champ magnétique, quelques métaux rares et des hélices à sa verticale par rangée de quatre. Ils ne tardent pas à faire la connaissance du maître à bord, un certain Robur. Lui, comme tous les membres de l'équipage, ne revendique aucune nationalité. C'est bien simple, il aborde la guerre et du haut de sa machine de guerre, entend détruire tout engin de guerre et toute force armée. Or, Prudent, le mal nommé, a fait fortune dans le commerce des armes. Strock travaille pour le ministère de l'Intérieur et l'invention de Robur les intéresse tous les deux. L'Albatros part alors pour un tour du monde et révèle sa puissance aux pays occidentaux. Mais du haut de son vaisseau, Robur prend aussi le risque de se brûler les ailes. Surtout, il laisse la main libre à ses prisonniers qui vont alors profiter d'une suite d'incidents pour s'évader pendant que l'Albatros et son équipage rencontreront leur destin.
How do you propose to do that, sir?
By using the threat of invincible power, Mr. Strock. Or if necessary, by using that power itself, as you saw this afternoon. I have already notified the leaders of your government and instructed them to make plans to scrap their navy and to mobilize their army. The government of Great Britain will be similarly notified. Every major government in the world will be given the self-same ultimatum. Disarm or perish.
You, sir, are mad. Quite mad.
How like the reasoning of your kind, Mr. Prudent? All well and sane to be the owner of factories, the products of which cause the violent deaths of millions in wartime and in peace, but to kill hundreds or even thousands with the aim of ending such deaths for all time. This is madness.
Adaptation très très libre de Robur, mais aussi du Maître du Monde, deux romans de Jules Verne par Richard Matheson, maître de l'épouvante, le film de William Whitney peine à tenir la comparaison avec 20 milieux sous les mers de Richard Fisher avec Kirk Douglas, sorti 7 ans plus tôt. Les deux histoires ont beaucoup en commun, même si elles se déroulent aux antipodes l'une de l'autre. Il faut aussi dire que le réalisateur William Whitney est un honnête artisan qui a commis nombre de séries, ces mini-séries qui passaient avant le film pour fidéliser le public, et son sens du rythme s'en ressent ici. Et puis le tandem Charles Bronson-Vincent Price apparaît très déséquilibré. Star des films d'épouvante, Vincent Price endosse le costume de Robur à merveille. C'est lui qui sauve ce qu'il y a à sauver du film. Il est comme toujours impressionnant de justesse, même si ici il n'est pas tant du côté du mal que du bien, malgré son aspect utopique. Charles Manson, lui, manque terriblement de charisme à l'heure de jouer l'agent impavide qui va forcément retourner le cœur et les sentiments de Dorothy. Elle, c'est la méconnue Mary Webster, plutôt convaincante dans son rôle de femme à poigne au milieu d'hommes qui hésitent. Mais elle paraît bien esselée, et on a du mal à croire qu'elle préfère Bronson à son fiancé David Frankham. La vraie surprise du film vient de Henry Hull, impeccable en prudente, qui est aussi arrogant que possible du haut de ses nombreux dollars emmagasinés. Lui fait un pendant plus qu'honorable à Vincent Price, et les deux nous donnent même un joli cours de morale sur la guerre, qui est le point culminant du film.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Outre l'aspect technologique de ces merveilleux fous volants avec les joutes verbales de la Weldon Balloon Society sur l'emplacement des hélices auprès d'un dirigeable, le film évidemment détonne par son aspect pacifiste anarchiste. Il rejoint en cela un des thèmes majeurs de 20 milieux sur les mers. Robur et Nemo sont une seule et même personne. Tous deux sont apatrides, ou prétendus tels. Tous deux anarchistes et pacifistes. Et tous deux préfèrent que leur création, le Nautilus pour l'un, l'Albatros pour l'autre, soit détruit plutôt que mis entre les mains de puissances étrangères forcément hostiles. L'acmé du film, je l'ai dit, se déroule au cours d'une discussion virulente entre Prudent et Robur, ce dernier trouvant limite cocasse que Prudent crie à l'abomination parce qu'il s'apprête impunément à semer la mort de quelques centaines de victimes au nom du pacifisme, alors que lui a bâti sa fortune sur la mort de millions de personnes. Mais pour Jules Verne, qui semble partager les avis de Nemo et Robur, la bataille semble vaine. Et parmi toutes ces anticipations, et elles ont été scientifiquement très nombreuses, l'une plus sociologique est intéressante. Jules Verne ne croit pas à la victoire de l'anarchie. Pour lui, le capitalisme a gagné aux grandes dames de Vincent Price. Cette vision d'une utopie libertaire brisée et condamnée à l'être est le grand point fort de ce film. Ajouté au film de Richard Fleischer, il n'en devient que plus évident. La dernière scène, avec le capitaine qui va mourir à bord de son vaisseau, rejoint par un équipage qui croyait aux mêmes idéaux que lui, laisse une impression forte et terrible. Le Maître du Monde, de William Whitney, c'est un film d'aventure qui prolonge le steampunk cinématographique et porte la dernière banderille à l'anarchie pacifiste. Et c'est en combo Blu-ray DVD chez Sidonis. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be be continued.
Goodbye, Rick.
Radio G, www.radio-g.fr.
Fog on calling, thought I spied a ship at the harbor gate. The iron weight. Where does the will, does the wanting? Where does the heart, there's something? Where does the will, does the wanting? A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you.